après le point, le petit 2 de tout à l'heure, nous sommes rendus maintenant au petit 3, les fondateurs de l'ethnographie. L'ethnographie, nous en avons dit un mot plus haut. Je disais que c'était la première phase du travail de l'ethnologue qui consiste à faire l'inventaire des matériaux sur le terrain. Et nous parlons de ceux qui étaient à l'origine de cette ethnographie. Alors, nous savons maintenant qu'il existait à la fin du 19e siècle des hommes, en majorité des missionnaires et des administrateurs, qui avaient une bonne connaissance des populations parmi lesquelles ils vivaient. Tout à fait normal. Mais l'ethnographie, au sens précis du terme, ne va commencer à exister qu'à partir du moment où le chercheur se rend compte qu'il va lui-même aller dans la raid, qu'il doit lui-même aller sur le terrain, effectuer, pardon, sa recherche. Il faut qu'il aille se mouiller lui-même. Plus question de rester confortablement assis dans son cabinet et attendre qu'il reçoive le matériau ou l'information. Mais non, il a vocation à aller sur le terrain faire sa propre recherche. Et ce travail d'observation direct, je dis bien direct, parce qu'il va être confronté à la réalité, ce travail d'observation directe fait partie intégrante de sa recherche. Donc, un grand changement, vous l'aurez compris, va avoir lieu dans cette discipline au début du XXe siècle. Un grand changement. Il n'y aura donc plus répartition des tâches où l'on remarquera d'un côté ceux qui sont installés dans leur cabinet et attendent qu'on leur envoie le matériau à traiter, et ceux qui sont les pourvoyeurs de l'information, ceux qui se mouillent sur le terrain, qui passent leur temps à rassembler les matériaux pour les envoyer. Non, plus de répartition de tâches. Aujourd'hui, c'est-à-dire à ce moment-là, permettez-moi de m'exprimer ainsi, à ce moment-là, le chercheur et le pourvoyeur d'informations ne vont plus faire qu'un. Ils ne vont plus faire qu'un, comme on dit en lessive, deux en un. Deux en un. Voyez-vous? Donc, c'est une activité qu'il va mener en plein air, dans une nature ouverte, comme le disait Malinowski, hein? Une activité qui sera menée en nature ouverte. Désormais, il comprend lui-même, le chercheur, je veux dire, il comprend qu'il lui faut quitter son cabinet de travail pour aller partager l'intimité de ceux qui doivent être considérés non seulement comme ses hôtes qu'il accueille, mais comme des maîtres qui l'enseignent. Oui, des maîtres qui l'enseignent. Parce que ce sont eux, les informateurs, les indigènes, qui vont lui apprendre petit à petit leur mode de vie, leur organisation sociale, etc. Ainsi, lui, le chercheur, en élève attentif, il va apprendre à vivre parmi eux, mais aussi à vivre la réalité de ces indigènes. Il apprendra à parler la langue des indigènes. J'ai fait allusion à cela un peu plus haut dans mon introduction. Hein. Il faudra qu'il apprenne à parler la langue des indigènes. Voilà. Donc, des conditions d'études radicalement différentes de celles qui prévalaient à l'époque des voyageurs, hein, au XVIIIe siècle et au XVIe siècle d'ailleurs. Hein. Donc, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer et c'est ce que aussi ont fait mes chers professeurs auxquels j'ai fait allusion quand je vous disais que lorsque j'étais étudiant, préparant ma thèse de doctorat à l'Université de Paris, j'avais parmi mes professeurs, la plupart, et parmi lesquels un éminent professeur, le professeur Georges Balandier, qui lui avait bourlingué, comme on pourrait dire, du côté de l'Afrique centrale, au Gabon, au Congo-Brazzaville, et en Centrafrique, etc. Et qui sont revenus par la suite au bercail, voyez-vous. Donc, il n'était plus question de rester à la maison, attendre que tout tombe du ciel. Hein. Il fallait aller sur le terrain. Donc, nous voyons bien ce changement qui s'est opéré dans la pratique de l'anthropologie. Alors, l'ethnologie devient donc pour la première fois une activité. Une activité, comme, au risque de me répéter, comme le disait Bronislav Malinowski, cette activité de plein air qui se fait dans une nature ouverte. C'est ça la réalité du travail de l'ethnologue. Hein. C'est la réalité. Alors, comme nous l'appelons encore aujourd'hui, ce travail de terrain, loin d'être aujourd'hui tenu pour un mode de connaissance accessoire, hein, servant tout simplement à illustrer des thèses, ce travail doit être considéré ou est considéré comme la source même de la recherche ethnologique, de la recherche anthropologique. C'est le terrain qui est la base du travail de l'anthropologue. Un anthropologue ne peut pas s'enfermer dans son cabinet et puis attendre que ça se passe. Non. Le terrain, c'est là que ça se passe. C'est à partir de là qu'on fait le travail véritable de l'anthropologie. Parce que le matériau est sur le terrain. Désormais, le terrain va guider toute la démarche de la nouvelle génération. La pratique du terrain, je veux dire, devrait guider toute la démarche de toute une génération nouvelle d'ethnologues, qui d'ailleurs, dès le début du XXe siècle, va faire des voyages. Toute une génération va déferler sur, vers l'ailleurs, voilà, pour le dire simplement ainsi. Ainsi donc, en 1906 et en 1908, Radcliffe Brown, Radcliffe RADCLIFFE-Brown, comme James Brown, BROWN. Donc ce chercheur va aller étudier les habitants des îles Andaman, là-bas du côté du Pacifique. Quelques années plus tard, ce sera au tour de Bronislav Malinowski qui va aller étudier les populations d'un petit archipel mélanésien. Hein. Il va rester quelques années là-bas. Pour la première fois, il va rester 2 ans, sans interruption. Il ne verra plus la couleur des frites ni des steaks. Et ce n'est que une fois qu'il sera rentré, au moment où il repartira, qu'il pourra faire des va-et-des-viens. Alors, à partir de ce moment-là, les missions de recherche ethnographique vont se multiplier, des travaux vont être publiés, et on connaîtra, à partir de ces travaux, de plus en plus, et à un rythme régulier, on connaîtra davantage ces populations qui, pendant longtemps, sont restées inconnues des populations, j'allais dire, occidentales ou tout simplement européennes. De nombreux chercheurs, et non des moindres, de cette époque vont donner aussi leur contribution à l'élaboration de l'ethnographie et de l'ethnologie. Et parmi eux, deux noms, nous retiendrons deux noms, parce que ça a beaucoup attiré mon attention personnellement, et ça devrait aussi l'être pour vous. Il s'agit notamment d'un Américain d'origine allemande. Il s'agit de Franz Boas. Franz Boas, c'est une référence. Franz, F-R-A-N-Z, plus loin Boas, B-O-A-S. Et l'autre, c'est un Polonais, naturalisé anglais, c'est le fameux Bronislav Malinowski, Bronislav, B-R-O-N-I-S-L-A-V, plus loin, Malinowski, M-A-L-I-N-O-W-S-K-I. Et donc, l'on a donc compris L'on a donc compris que la discipline ne s'est pas constituée comme ça tout d'un coup. Ça a été aussi un travail d'une longue préparation qui, bien entendu, a tenu compte aussi de ce qui s'est passé avant. Parce qu'il ne faut pas, d'un revers de main, balayer ces navigateurs et voyageurs qui n'étaient pas formés pour cela, mais qui ont apporté une petite contribution, quelque impartiale fut-elle. Et puis, dans cette ethnographie qui a pris corps progressivement, nous avons cité certains grands noms qu'il convient de retenir. Parce que lorsqu'on dit ethnographie, il y a des gens qui sont à l'origine de ça. Il y a des fondateurs. Hein. Donc, j'ai cité les noms, je les reprends, France Boas et Bronislav Malinowski.